pour cette scène. Petite scène. Comme ça, vous pouvez dormir plus tôt. Ça vous va?
Ça ne vous va pas?
Non. T'as dit d'être spontané. Donc
on va faire en deux parties.
En deux parties.
On va faire une première partie, la suite d'hier. Peut-être 10 minutes, un quart d'heure, quelque chose comme ça. Ça, ceux qui sont fatigués pour partir, je ferai pour que vous ne ratiez pas le sujet, je dirai l'essentiel. Après, on fera que développer. Donc, vous pouvez partir.
Qu'est-ce qu'il est ? J'ai dit, on enregistre.
Donc comme ça, on pourra leur donner,
on peut donner
à tout le monde.
Le sujet, moi-même, je n'ai pas proposé, mais c'est venu de Shivalanchini. Un de nos Upanishads, des très très anciens écrits, déjà 4000 ans, donc c'est important les dates, il y a 4000 ans, quelqu'un qui a pensé dans cette façon, qui a donné trois règles du jeu, ou trois domaines spécifiques. Si on continue à développer dans cette direction, de regarder la vie comme un jeu. Lila, mais ça a été très très développé plus tard, mais c'est le premier référence venait de Katha Upanishad, où un jeune garçon a vu que son père était très hypocrite, un roi. Il a fait un grand fête où à la fin il devait tout donner. Et comme il avait vu, au lieu de donner des choses que les gens ont besoin, il a donné des vaches qui ne produisaient pas, ou des choses qui les encombraient. Il était très déçu du comportement de son père. Et il a demandé à son père, mais tu vas me donner à qui? Parce que la personne doit tout donner. Le père était tellement en colère, il a dit, je vais te donner à Kala. Kala, c'est le dieu de la mort. Mahakala, vous avez vu. Parce que le temps qui nous tue, en fait, c'est personne d'autre, c'est le temps qui nous tue. Il a dit, je vais te donner à la mort. Donc il a pris ça au sérieux, il a dit, ok, c'est ça, dans ce point. Je vais aller me rendre à Kala, la mort. Donc, il va chez, c'est l'histoire, il va chez Kala, le dieu de la mort. Et Dieu n'était pas là. Donc il fallait qu'il attende 3 jours, 3 nuits devant la porte de la mort. Et au bout du troisième jour, la mort apparaît. Et puis il dit, mais je suis vraiment désolé que vous m'avez attendu 3 jours et je vous accorde une faveur. Vous pouvez me poser 3 questions. Donc il a dit, ok, je vous pose une première question. Première faveur, je vous demande une première faveur, que la colère de mon père disparaisse. Donc il a dit, ok, je vous accorde. Deuxième, il a demandé que les personnes qui n'ont pas reçu vraiment les dons, il faut qu'eux reçoivent quelque chose. Donc il a dit, ok, pas de souci. Et puis le troisième, il a demandé Il y a des gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Et puis il y a d'autres pensent qu'on revient encore dans le corps. Et qu'est-ce que c'est qui est vrai? Le dieu de la mort, il a dit, il a répondu, mais même les dieux ne savent pas ça. Il ne faut pas me demander ça. Tu peux me demander n'importe quoi. De l'argent, la richesse, le luxe, tout. Mais ne me demande pas cette question. Et quand le dieu de la mort, parce que c'est la personne vraiment concernée, qui dit, pas me demander, il répond, il dit, mais comme vous avez dit, même les dieux ne savent pas, ça veut dire que vous connaissez bien la réponse de cette question. Donc je ne partirai pas sans savoir la réponse. Donc la conversation est c'est fabuleux, qui nous donne une réponse très claire. Et sur cette partie de la réponse, on trouve ces trois règles ou trois aspects de ce jeu cosmique. En sanskrit, on dit Atma Krida, Atma Radhi Kriyavan. Le premier, c'est Atma Krida. C'est le jeu de l'être. Rapidement. Il faut, pour le comprendre, en fait, il faut tout oublier. Tout ce qu'on sait. Et qu'est-ce que c'est? Nous sommes qu'une étincelle de conscience. On ne sait pas où ça a commencé, quand ça a commencé. On ne sait pas est-ce que c'est basé sur le corps, notre conscience, ou c'est indépendant de notre corps, on ne sait pas. On ne sait pas ça fait combien de temps ça existe, cette conscience que nous sommes. Qui est dans cet univers, ça fait très très longtemps que cette conscience rêve. C'est un enfant. C'est un enfant qui rêve, mais il ne sait pas qu'il est en train de rêver. Et ce rêve devient quelquefois cauchemar, quelquefois c'est heureux. Mais il ne sait pas si c'est un rêve ou pas. Il n'y a rien dans cet univers autre que lui et son rêve pour venir lui dire qu'il est simplement piégé dans son rêve. Jusqu'à là, c'est bon. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de rien. Même s'il y a un sauveur, c'est fait partie de ce rêve. Même s'il y a un Dieu, ça fait partie de ce rêve. Cet enfant qui est éternel, cet enfant qui est très vieux et très jeune, très vieux parce qu'on ne sait pas depuis quand, c'est très jeune parce que c'est un enfant qui ne sait pas, qui ne sait rien, qui ne sait même pas que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il vit, c'est un rêve seulement. Mais il est piégé éternellement dans ses propres projections. Une fois qu'on a compris ça, pour sortir, première chose, c'est Atma Krida. C'est-à-dire, je suis seul, le monde, c'est uniquement une imagination, une projection psychique. On projette qu'il y a un soleil, la lune, tout ça, on projette. Et après, on se retrouve à l'intérieur de la projection, une petite vie, dans un corps. Ça s'appelle Atma Krida. Ça veut dire, on est seul, un peu comme daydreaming. En français, comment on dit?
Rêve éveillé.
Ça, c'est un premier. première façon de regarder notre vie. Deuxième, c'est Atma Reti. Le mot utilisé Reti, c'est fort parce que c'est le même mot Eros. C'est faire l'amour avec soi-même. Atma Reti. Se jouir de soi. Donc ça, c'est radicalement opposé à ce qu'on vient de dire au début. C'est-à-dire, le premier, c'est jouir de toute sensation qui est vécue à travers le cinquième sens. La deuxième possibilité, c'est vraiment c'est l'explication même de la méditation, c'est observer l'observateur. Donc, quand l'attention est tournée vers la conscience qui était consciente du monde extérieur, la conscience prend conscience de la conscience, et là il y a une autre qualité de perception qui n'est pas comparable par rapport à la sensation sensorielle. C'est-à-dire, si vous imaginez un prisme avec un côté lumière blanche et l'autre côté tous les arcs-en-ciel. Donc, un côté, on voit une énorme variété de sensations qui vient à travers les cinq organes sensoriels. De l'autre côté, il n'y a qu'une seule sensation. Ça, c'est la hauteur mystique. C'est-à-dire, c'est quand une fois qu'on avait senti ça, c'est-à-dire, les sept couleurs, quand c'est mélangé, ça devient blanc. C'est exactement comme ça. Quand on passe sur l'autre côté, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas aucune division. On rentre dans un espace de lumière incomparable qu'on ne peut pas comprendre quand on est sur l'autre côté. Ça, c'est le deuxième. Là, se jouir de soi, c'est extrême joie. Troisième aspect du jeu, c'est Kriyavan. Ça veut dire, on va entrer dans l'action, dans le monde projeté, avec des valeurs le plus noble possible. On devient acteur, tout en sachant que tout est un rêve. C'est fabuleux parce que on est détaché, pourtant on est actif. Le modèle a été donné par la vie de Krishna. C'est pour ça aussi Krishna était adoré. Parce qu'on lui demande plein de fois cette question. Tu sais bien que tu ne vas pas y arriver, mais quand même, tu continues à agir. Pourquoi? Vous comprenez? C'est-à-dire, on n'est plus attaché au résultat de l'action. Peut-être on va échouer, peut-être on va gagner, peu importe. Mais l'action devient déclencheur de la joie. Voilà, je te dis, vous pouvez partir.
Action. J'ai dit action.
Action, réaction.
Action, réaction.
Thank you.
dit 4 points.
Non, non, 3.
3. Donc je vais de soi, je peux tout le monde.
Premier, c'est...
Et l'action.
Le premier, c'est de... Voilà, vous êtes vraiment dans le spectacle.
Mais c'est le rêve éveillé, c'est ça ? On n'entend plus rien.
Merci.
Je veux dire par là que c'est la pulsion de l'action qui, sans connaître la finalité, c'est-à-dire que c'est ce qui va provoquer le vrai plaisir.
Ouais.
C'est-à-dire c'est cette pulsion qui t'amène à faire des choses. Et oui, parce qu'en fait, là aussi, c'est...
Ça veut dire aussi qu'il faut être content. Il faut être dans l'action, il faut être bien conscient
de ce qu'on fait. Nous sommes actifs, mais avec noblesse dans les valeurs. Détaché, mais plus tard, ça a été développé comme karma yoga.
Et ce, quelles que soient les actions, en fait. Je donne un exemple, quand on était ce matin là, sur le bord du... Comment s'appelle déjà le fleuve là,
l'Indus.
On était tous en haut, là, et j'ai eu envie de descendre. Tout d'un coup, comme ça, là, j'ai eu envie de descendre à la rivière. Et puis, aussitôt, je me suis dit, mais je vais faire chier tout le monde à descendre, le temps que je descende, que je remonte, le groupe va m'attendre. Et j'ai repensé à ce que tu as dit hier soir, et j'ai dit, bon, bah, j'y vais, puisque j'ai eu envie de descendre, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pris plaisir à descendre. Mais si j'avais écouté mon fonctionnement de d'habitude, je ne serais pas descendu. Je serais resté avec le groupe.
Regretter et toute la journée.
Peut-être, je sais pas.
Nous, on avait le plaisir aussi de te regarder.
Oui, bah oui.
Se redire en petite.
Jean-René est descendu.
Après, moi, j'étais content quand il est arrivé.
Il n'a pas osé non plus.
J'ai pas osé.
J'ai le temps. Vas-y.
Mais ça, c'est parce que hier soir, tu nous as dit ça.
De profiter quasiment de l'instant présent.
C'est ça.
Mais il ne faut pas que vous mettiez en danger parce que j'avais dit ça.
Non.
Mais est-ce qu'on ne va pas faire des choses un peu folles, du coup ?
Non, pas du tout. C'est pas ça, la question. Et jamais, l'univers nous envoie un message néfaste.
Un message comment ?
Néfaste.
Ça sera toujours...
C'est le mental, du coup.
Toujours bénéfique,
toujours
bienveillant. La raison pourquoi ? Parce que c'est plein conscience et plein sagesse, plein de beauté. La direction même d'univers, l'évolution, c'est vers la joie. Et aucun message ne viendra qui nous dit allez tuer quoi ou se mettre en danger. Il n'y aura jamais. Ça a été vraiment réfléchi parce qu'il y a des gens qui entendent des voix comme je sais pas, il y a plein de gens d'arc dans le monde qui entendent des voix qui se prennent pour quelqu'un, mais leur vision est erronée. Peut-être Jeanne d'Arc a pu identifier le roi qui s'est caché, mais elle n'a pas identifié la politique méchante qui était derrière. On lui a sacrifié. On lui a laissé tuer. On ne l'a pas sauvé. C'est-à-dire, elle se fait utiliser. Ou peut-être c'était vraiment tout été monté artificiel pour la triomphe. Parce que les hommes, ils peuvent mourir pour une femme, mais pas pas pour le roi, c'est compliqué. Vous comprenez, c'est... Quelquefois, c'est... on ne peut pas savoir exactement ce qui est derrière. Et quelquefois, on peut se dire, oui, j'ai une intuition, mais regardez si, c'est, si c'est le bon. Oui.
Mais hier, on avait un peu du mal à toucher du doigt là, ce que tu exprimais. Et puis je me disais qu'en fait, je pense que chacun en a eu des expériences où, à un moment donné, on a eu des messages. Et on n'y pense pas forcément quand tu nous l'expliques. Mais moi, je me suis souvenu d'un cas où je roulais en voiture. Et j'ai vu une biche qui me regardait, mais comme si elle me fixait quoi, sur le... Et du coup, j'ai ralenti. Et en fait, juste après, il y a une autre biche qui a traversé devant moi. Mais si je n'avais pas ralenti à ce moment-là parce que je regardais, ben, j'aurais percuté la biche. Et là, je me suis dit, mais on m'a envoyé un message. Ce n'est pas possible, parce que sinon, j'aurais... Et ça, je pense que ça illustre un petit peu ce que tu dis.
C'est systématiquement. S'il y a quelque chose, une catastrophe nous arrive, c'est parce qu'on n'a pas écouté. Et encore... Une fois que vous venez en plein milieu des catastrophes, il y a toujours un message positif à l'intérieur de catastrophes.
Encore des messages, oui.
C'est parce que le monde qui a été projeté, même si c'est une projection, il y a un message, il y a un enseignement. Et tout nous parle. C'est pour ça que...
C'est surprenant, c'est qui orchestre tout ça, quoi. C'est
nous...
qui...
Pardon ?
Non, je... on va partir... Je disais, mais qui orchestre tout ça ?
C'est fabuleux. Nous, on appelle le maître. Le maître apparaît. Quand on est dans l'éveil, quand on est dans le rêve, quand on est dans le sommeil profond, où nous sommes dans l'état de méditation. Donc le maître envoie sans cesse. Alors, qu'est-ce que c'est ce maître que je suis en train de parler ? Il y a une fragmentation. Le tout est un. Un fragment, comme nous sommes dans notre conscience. On imagine que je suis seul, que l'univers extérieur qui est menaçant. Ça, c'est notre ignorance. Mais l'univers est au courant de cette fragmentation qui se passe dans chaque individu. À partir de ce moment-là, l'univers souffre parce qu'une partie de lui est partie. C'est comme si j'ai perdu un petit doigt, même si c'est un petit doigt, et le reste de ma vie, je suis en train de chercher à parce que je ne suis pas blind. Je ne suis pas complet, je ne suis pas intègre. Et donc, il y a une sorte de volonté, une force qui se génère en même temps de cette séparation que nous vivons. C'est réciproque. Aussitôt que je vis une fragmentation, ça veut dire que je me sens seul, je suis seul parce que j'avais créé, même psychologiquement, c'est une séparation. Aussitôt cette séparation est créée dans ma conscience, j'ai créé le maître pour moi. C'est-à-dire aussitôt que la lumière, l'obscurité est créée. Aussitôt qu'il y a une maladie, le remède est généré. Aussitôt qu'il y a une question est venue dans la surface de notre conscience, les réponses se préparent quelque part. Aussitôt qu'un individu ressent un désir, l'univers se met en action pour répondre. On ne peut pas dire que c'est instantané, mais c'est possible. Il y a tout le temps, il y a ça.
Comme une attraction.
C'est une loi. Comme c'est une loi, en sanskrit, on dit « Ishvara ». C'est une loi. Ça fonctionne, c'est une loi.
Ishvara, c'est le
Seigneur.
L'abandon.
L'abandon,
on dit Ishvara.
Ishvara, ça veut dire le maître. Purvishamapi kalela kalena navaschedat. Peut-être vous vous rappelez le Kasutra. Il était le maître des anciens qui n'a pas été coupé par le temps. Donc ce maître, c'est un principe. ça touche tout le monde. C'est quelquefois on dit le maître intérieur, mais en fait, maître, il n'y a qu'un maître. Tout événement, tout ce qu'on vit, il y a un enseignement. Et on n'écoute pas. Quand on n'écoute pas, le message continue à revenir sous des différentes formes. Personne ne peut être en dehors de ce contexte. Parce que nous sommes dans ce besoin. Parce que le retour vers l'unité, c'est l'objectif final. C'est, même si on n'est pas conscient de ça, on est dans ce chemin. Tout le monde peut prendre des exemples comme Christophe. Notre vie est remplie des événements comme ça. Quelquefois on est conscient. Et chaque lieu de décision de notre vie. Chaque lieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas forcément tout voir. Imaginez que vous êtes à la fin de votre vie, que vous regardez en arrière, vous allez voir, vous pouvez réaliser que ça a été orchestré. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette rencontre à ce jour-là qui m'a amené là, que c'est fabuleux. On ne peut pas. Le moment de la décision, on n'est pas conscient de la. De la suite. Pourtant, on dit, mais je réfléchis, je prends la décision. En fait, c'est tout ça, c'est que superficiel. C'est étonnant. Je devais rencontrer une telle personne à tel moment. Ça va se faire. Ça se fait. C'est incontournable. C'est comme une rivière qui descend de montagne. Ça va continuer dans les directions, quoi qu'il arrive. Et ça nous amène un peu.
Mais c'est souvent que je dois voir quelqu'un et maintenant je me dis je vais attendre de le croiser et je le croise le jour même quoi. Je dirais parce que j'avais besoin de lui dire quelque chose. Et je me dis mais c'est incroyable ça.
Mais alors c'est, une fois c'est rien. Et hop, mais... il appelle.
Ou des fois on se dit tiens je vais appeler un tel et puis
c'est lui qui appelle,
celui qui appelle ça vous est arrivé aussi ce genre de choses.
On a des exemples, mais il y a des contre-exemples quand même. Il y a des violences que.
Attends, c'est parce que là, si tu dis ok, moi je suis allé vers le péril que attention, on t'a prévenu plein de fois.
Et est-ce que si, lorsque des désirs ne sont pas. Tu dis, en fait, il suffit qu'on ait un désir pour qu'il soit assouvi. En fait, on rencontre justement, il y a une rencontre, ou alors ce désir est assouvi. Et pourquoi, quelquefois, des désirs ne sont pas justement reconnus, ne sont pas acceptés, ou c'est qu'on s'est trompé dans les désirs, c'est qu'on ne les a pas pensés si fort, ou c'est qu'en fait, ce n'était pas le bon chemin. Enfin, je ne sais pas, je me pose des questions aussi.
Tout d'abord, regarde que tout ce qui se passe, c'est un enseignement.
Oui, ça oui, j'ai bien compris ça.
Donc, c'est entièrement incompatible par rapport à les valeurs qui sont fixées, parce qu'il y a des valeurs qui sont fixées. C'est ça, Ishvara. Ishvara, ça veut dire la loi. Une fleur, c'est joli. Elle est belle. D'accord. La beauté, c'est intrinsèque. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est-à-dire, ça ne peut pas être le contraire. c'est toute forme de vie, c'est obéissant. C'est-à-dire, ça, on ne peut pas changer, si tu veux. Donc, la gravité, on ne peut pas changer. Même si on n'est pas content de le poids de notre corps, c'est comme ça.
Ça voudrait dire que le désir que j'exprime, il ne correspond pas à mon chemin de vie, à la limite, puisque tout est orchestré, c'est ça?
Si ton désir, si c'est apparu, déjà il y a une raison. Même si peut-être ce n'est pas compatible ou pas, de toute façon, si tu es sincère, tu l'as ressenti ça, ça révèle quelque chose en toi. Pourquoi j'ai ce désir? Désir, c'est une révélation d'un manque. Et souvent, on ne s'occupe pas de la cause de ce désir, on va s'occuper du désir. Et donc, comme on ne regarde pas la racine du problème, il y aura d'autres désirs, et une après l'autre. Mais l'univers est en général très doux avec nous, en général. Et même dans des moments de très grandes difficultés, parce qu'on se met dans des difficultés pas possibles, là aussi l'univers est là, avec compassion. Et là, ça nous amène sur un autre principe intéressant. Donc je parlais de Ishvara comme un maître, un principe qui touche tout le monde. On est deux, mais on reçoit deux messages séparés. C'est-à-dire, chacun a son maître personnel. On appelle Ishta Devata. Ça veut dire chacun, en l'intérieur de lui, il y a quelqu'un plus grand que lui. Mais c'est vraiment, c'est quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire, je ne suis pas seul. À l'intérieur de moi, il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre. On ne le connaît pas bien. Mais on peut petit à petit avoir une idée sur lui. Premièrement, il est le plus grand complice. Il est complice. Il est complice avec.
Il est complice.
Complice. Complice. Même quand je suis en train de faire fausse route, il est complice avec. C'est-à-dire, il n'est pas un maître en disant « mais si tu vas dans cette direction, je vais te stopper ». Il ne va pas te dire « stop ». La raison, c'est un peu comme un enfant qui cherche à toucher la flamme. On dit à un enfant « ne touche pas, ça va te brûler ». Mais il faut quand même, et il a besoin de sentir la douleur pour qu'il comprenne. Donc, le maître a une pédagogie assez particulière. Mais c'est toujours avec un mot. Mais c'est extraordinaire, c'est toujours avec un mot. On peut petit à petit créer une relation privilégiée avec son propre maître intérieur. Et là, ça prend la dimension un peu religieuse. On peut en parler, on peut discuter avec lui, dialoguer avec lui. Il nous écoute, il nous parle par les signes. Ça, vous pouvez expérimenter ça.
C'est quoi ces signes? C'est intérieur.
Non, je vais demander, c'était quoi les signes? C'est des émotions qui... C'est comment? C'est comment ça se traîne? Pour ou moi, c'est extérieur ou...
Pour moi, c'est tout est signe. Après, on peut dire, oui, ça peut être une maladie psychosomatique, ça peut être d'autres événements extérieurs. Donc, c'est aussi parce que j'ai beaucoup mis la tête contre quelque chose, ça peut être ça. Il y a plein de façons, mais tout le temps. Pour moi, c'est tout le temps, systématique.
Et est-ce que ça peut être la petite voix intérieure?
Appelez-la, appelez comme ça, hein, si vous voulez. Oui. Il n'y a pas de souci.
La conscience, en fait, une sorte de conscience.
Mais appelez ce que vous voulez, de toute façon, c'est l'autre pôle de soi. Et ce qui est intéressant, il y a une sorte de préoccupation. Concerned with, ça veut dire on est concerné, mais cette partie que je suis en train de dire, il est sans cesse, ou il ou elle, hein, est sans cesse tourné vers notre bien-être, activement. Ça, c'est Ishwara. Ishwara Pranidhana, c'est une pratique de devenir conscient de cet amour qu'on reçoit. C'est un amour sans être assigné. C'est-à-dire, c'est très silencieux. On t'aide, mais sans dire que je t'aide.
Une présence.
La présence, peut-être, on ne ressent pas, oui, forcément. Mais les, cette communication, la façon que ça vient vers nous, c'est... au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, si dans notre corps, il y a quelques milliards de cellules et les activités pour que la vie soit maintenue, c'est très, très complexe. On est en train de respirer des molécules qui sont extrêmement nocives. Il y a des activités qui sont là pour le trier, pour l'enlever, pour l'éliminer. Ça, c'est au niveau physiologique. Mais après, il y a, au niveau psychologique, il y a énormément de choses qui se passent. Énormément de choses qui se passent. Parce que chaque jour, on encaisse énormément de coups qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'intérieur. Et c'est tout été réparé. En fait, quand on sent qu'on n'est pas bien, c'est que le petit morceau qui reste encore, pas être réglé. Mais une grande partie était réparée. Ça, c'était fait sans qu'on nous le dise. Ça, c'est progressivement, on peut devenir conscient de plus en plus. En fait, j'ai pris conscience de ça, c'est quand j'ai entendu... parce que moi, je sens toujours senti pas être aimé, mais en fait... la question, c'était pas, je n'étais pas aimé, mais je ne sentais pas aimé. Vous comprenez la différence?
Oui.
Nous sommes aimés, mais on ne sent pas.
On ne sent pas, oui.
Et on ne sent pas parce que, pourquoi, comme on avait dit hier, on attend comme un enfant, je veux le bonbon rouge, je veux absolument ça. C'est-à-dire, on va créer dans notre tête une image, certains critères, certaines conditions pour être heureux. Et nous sommes bloqués avec ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à recevoir ce qui est déjà présent. En fait, notre malheur, c'est nous-mêmes. Bon, c'est facile à dire, mais de sortir de ce mécanisme, c'est pas facile.
Donc on a un maître protecteur qui nous envoie, il est bienveillant, qui nous envoie des signes, c'est ça que tu as dit. Ces signes. Ouais. Et dont le problème, c'est de savoir les coder.
On n'écoute pas parce qu'on est tout le temps préoccupé à l'intérieur, avec, en train de recycler nos idées. Donc on n'est pas présent, en fait, pour écouter. Donc l'objectif, c'est quelque part sortir de... cet monologue intérieur est tout le temps à l'écoute de ce qui se passe. C'est ça qu'on avait dit hier. Et message, ça peut venir de dedans ou dehors, tout le temps.
Oui, moi j'avais compris que les messages, c'était plus le maître extérieur, si tu veux, enfin le tout, et que le maître intérieur, c'est plutôt celui qui nous accompagne, mais pas
il n'y a pas de différence.
Moi,
c'est nous qui disons extérieur ou intérieur.
Tu dégoûtes ?
Non, c'est pas possible.
Il n'y a pas de différence.
Un oiseau.
Parce que ça relève du même tout. Il n'y a pas de différence. Mais nous, quand on crée cette intimité, est-ce que du coup, on n'introduit pas quelque chose? C'est de même nature, mais ce n'est pas tout à fait la même relation. Enfin, que...
Il est moins... Mais il est plus grand que moi.
Oui, c'est ça, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une force. Moi, c'est une force qu'on sent à l'intérieur de soi, mais qui nous dépasse totalement, oui. Mais qui en même temps est nous. Oui, c'est vraiment. Mais ça oui. C'est...
Et ça va à ton expérience de quand on écoute les. Enfin, quand on prend en compte les signes, est-ce qu'au début, il ne peut pas y avoir un risque d'immobilisme où on se trompe dans les signes qui nous sont envoyés et du coup, on est dans l'inaction. Je prends un exemple, des fois, tu veux partir en voiture, tu ne trouves pas les clés, après, quand tu veux ouvrir la voiture, il se passe encore quelque chose et tu te dis, c'est peut-être un signe qu'on m'envoie qu'il ne faut pas que je prenne la voiture aujourd'hui. Alors, peut-être pas, mais du coup, tu pourrais tomber dans l'inaction et du coup, ne plus avoir la joie que tu disais par peur. Enfin, par, je ne sais pas si c'est peur le mot, mais c'est prudence.
Très compliqué, moi-même, pour moi. Je vous parle de tout ça, c'est, ne prends pas moi pour quelqu'un qui est expert en
décodage des signes.
Interpréter des signes. Et une chose que je suis sûr, quand il y a une situation comme ça, il y a quelque chose quand même. Après, on peut se tromper, hein. Mais je ne veux pas vous influencer par rapport à mes convictions. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire. Si c'est juste, tout passe comme lettre à la poste. Tout, du début jusqu'à la fin. Si notre intention, notre objectif, tout ce qui est vraiment, ça vient du cœur, que l'univers est aligné avec ça, mais tout est...
Ça brille bien.
Ça rassemble, une sorte d'assemblage. Je peux prendre un exemple de ce dernier projet qui m'a, en fait... préoccupé, ces derniers projets, en fait, c'était le premier projet. Je voulais faire un orphelinat. Alors, un orphelinat, c'est, je ne sais pas qui a mis cette idée dans la tête, mais je n'étais pas capable, donc il y a 20 ans, je n'étais pas capable. Donc, j'ai fait plein d'autres choses. Et puis, à un moment donné, c'était très très fort quand j'avais vu le film Lion. Ça devenu comme un message en me disant c'est maintenant. C'est maintenant. C'est plus fort. C'est maintenant. Je dois commencer maintenant. Mais à partir de ce moment-là, les événements qui s'est emboîtés l'un après l'autre de façon extraordinaire. Je dis, mais où ? On n'a pas de terre. Et puis on m'amène à un endroit où je suis déjà allé voir. Et puis à l'époque, il me demandait beaucoup d'argent. Il a réduit car le prix est devenu car. Vous comprenez ? Et après, encore cette somme, je n'ai pas. Et en même temps, il y a un autre événement qui... C'est une personne qui m'a aidé au début de mon histoire en France. Il est mort et sa famille décide d'amener son cendre, ses cendres qu'elle a là, il vient, et puis on discute, on a encore et d'autres événements qui viennent greffer. Un enfant qu'on a adopté de façon partielle. Cet enfant, on a accompagné jusqu'au la fin de son étude. Et là, il attrape un cancer, il a paralysé, il a deux jambes. Il faut l'héberger parce qu'il n'a pas ni père ni mère. Il y a un grand, seulement une grand-mère qui est très sage. Tous les événements qui viennent, et puis je parle, je suis mis au courant, il faut trouver cet argent. Je me dis, c'est, moi je voulais arrêter de beaucoup travailler, je dis cette année. Donc après, je me dis, non, il faut absolument que je travaille encore plus pour financer tout ça. Tu me proposes l'argent, après une autre personne me propose l'argent, une troisième personne qui me donne tout. Il me dit. Combien il te manque, voilà, il me donne tout. Donc c'est étonnant, les choses qui s'est emboîtées, ça c'est un exemple que j'ai dit. Mais c'est,
on pourrait, on peut tous oui, on pourrait tous écrire quand c'est juste.
Et quand je prends la mauvaise direction, c'est pareil. J'oublie les clés, puis je connais contre quelque chose, c'est la voiture est en panne, et puis c'est galère après galère. Donc quand je vois, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un effort. Il y a toujours un effort à fournir. Ça c'est parce que là, il y a pas mal de choses à réfléchir, tout est bien décidé. Mais quand la mauvaise direction, il y a des signes. Moi, je peux encore développer sur ça, parce que il y a une intelligence qu'on n'a pas forcément accès. Moi, je suis conscient de champs de vision que j'ai mais cinq sens qui me donnent mon passé, tout ce que j'ai appris, tout ce que je peux imaginer, projeter, mais par rapport à l'univers et la complexité, c'est rien. Notre connaissance avec tout ce qu'on peut, on peut être extrêmement brillant, encore c'est rien par rapport à l'infinitude de cet univers. Donc quand je projette, il y a une autre intelligence beaucoup plus grande qui est consciente de tout ce qui se passe dans tous les cerveaux de tout être vivant, et tout ce qui est en train de vivre partout. Lui, il est un peu comme une sorte de réseau, un supercomputer. C'est lui, il nous influence d'une façon extraordinaire. Donc, si on arrive à être en harmonie avec cette intelligence, qui n'est pas toujours donnée, hein, c'est pas facile. Parce qu'on a, on a moins de capacité d'écoute, on n'a pas beaucoup de capacité d'écoute.
On peut s'améliorer.
Oui, c'est sûr. Et tout ce que je fais, en fait, ça crée un impact dans le tout. Peut-être j'ai fait une erreur et que j'estime que c'est une erreur, mais c'est pas vrai. Il fallait que j'attende quelques années pour comprendre que c'était absolument nécessaire.
Que ça se passe comme ça.
Ouais. En fait, il n'y a absolument aucune raison d'être en souffrance. Tout prend sens. Tout prend sens.
Et quand on le sent vraiment, ça amène la joie.
Bien sûr. C'est là qu'on peut écouter les mystiques qui disent que ta volonté soit faite. Et donc j'ai cherché à à poser cette question à cette conscience universelle, intelligence. Quand je lui dis que ta volonté soit faite, il me répond, ta volonté c'est la mienne. Parce que cette conscience cosmique n'a pas une volonté particulière. C'est qu'un reflet de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je dis, il y a une sorte de complicité entre lui, si je dis lui, et moi. C'est heureux, ce rapport. Et là, on entre dans cette relation bhakti. Bhakti, c'est la plus grande forme d'amour. C'est intime, c'est pas partageable, ça se passe à l'intérieur de soi. C'est une connexion cosmique qu'on vit, chacun, à l'intérieur de lui, discrètement, et qui nous donne une explication dans tout ce qu'on vit, qui nous soulage dans des moments de difficulté ou également dans des moments de joie. Quand je ris, il rit avec moi. Quand je pleure, il pleure avec moi. Cette complicité. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui rit quand je pleure. C'est cette intimité. Quand je suis emprisonné, il est avec moi dans ma prison. Et c'est-à-dire, c'est pas une idée de Dieu qu'on avait rencontré à travers la religion. C'est Dieu personnel. Quand je me sens meurtri, lui aussi. C'est ma souffrance, ses souffrances. Sa joie, c'est la mienne. Ma joie, c'est le tien. Donc c'est très connecté. Mais c'est très vivant. C'est pas, même si j'avais utilisé en disant que c'est un principe, mais il y a beaucoup de vie. Ça, c'est pour la première partie, quoi. C'est là, la vie devient un petit jeu. Après, le deuxième, c'est la fusion avec.
Là ?
La fusion avec sa propre divinité intérieure. Là, ça, c'est le non-retour. On rentre à l'intérieur, on trouve tout ce qu'on a cherché. La troisième phase, on est tellement rempli dans la plénitude. On va vers le monde. Là, on veut faire du bien à l'autre. Tout en sachant que peut-être on ne va pas y arriver. Déjà, dans notre champ de conscience, englobé une intelligence bienveillante, ça change. Déjà. Souvent, on vit à côté. C'est-à-dire, on ne tient pas compte. En anglais, il y a un proverbe. One with the God make a majority. Peut-être on est seul, mais si on est conscient de cette connexion, on est quand même mieux.
que nous sommes dans cette protection, dans cette chambre. Mais c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. C'est disponible en fait pour tout être.
Être optimiste.
C'est plus que ça, parce que moi je suis pessimiste dans mon esprit et optimiste dans le vouloir. Sinon je ne peux pas faire quelque chose. Pessimiste parce que je sais que ça ne va pas forcément régler tout. Et dans tous les chemins, il y a des difficultés. Je sais que le monde continuera dans son cours. Mon existence, c'est extrêmement brève dans l'infinité de temps. On n'est rien. Donc, être un peu pessimiste, ça aide pour des moments de creux.